les dieux de feu pour ses moyens pour prouver qu'il avance. Il ne va pas s'apesantir sur les dieux d'eau, mais non. C'est le bélier, le soleil et l'archer qui structurent sa démonstration, parce que qu'il le sache ou non, il est. Ce qu'il aime, c'est ce dieu-là. C'est le courageux, valeureux, combattant. Bon. Eh bien, c'est la même chose. Il va se fonder sur ce dieu-là. Et il va dire, l'homme doit combattre, il doit apprendre à combattre. Il va se tromper, il va passer par des périodes de mort. Mais ces périodes de mort sont en même temps merveilleuses. Regardez ces deux vers extraordinaires. Il dit, et puis Mars et Jupiter, il nous dit, c'est bien les dieux de feu, c'est bien les dieux de combat. Les deux sets du destin signaleront le fils héroïque que Mars et Jupiter frapperont, laissant son œuvre inachevée, dit-il de Lincoln. Bon. Et plus tard, il dit, les 2000 gouvernants d'une génération à venir, sont les 2000 qui constituent notre 20e siècle d'ailleurs, les 2000 qui gouverneront une génération à venir, et l'éclat du passé intact resplendira dans l'aube du progrès. Il annonce que ça va être l'ère du progrès, que tout le monde va féliciter du progrès, mais que ce qui est important, ce ne sera pas le progrès apparent, ça sera le réveil des dieux souterrains, des dieux anciens, du passé, qui vont revenir revivifier le siècle du progrès. C'est plus grave. Bon, c'est pas parfait, c'est pas plus parfait que Coluche tout à l'heure. Coluche a eu des éclairs sur le siècle, lui a des éclairs sur trois siècles. Mais tout de même, ce sont des prophéties pour les autres. Bon. Prenons un exemple qui va nous rapprocher à la fois des deux, des parenthèses et des triangles. Un exemple curieux que j'ai développé dans un ouvrage que j'intitule Une grande magie littéraire. C'est un triangle, mais en même temps, c'est un autre triangle. Et puis, c'est peut-être un autre triangle, ou en tout cas, c'est quelque chose qui s'incline, ou alors qui fait le pli. Prenez le pli ou la tronche. Alors, il y a ensemble un triangle, et puis un autre triangle plus vaste, et puis peut-être un cercle autour. Ça, c'est la figure. Je crois l'avoir trouvé, je ne pas qu'on l'ait dit avant moi. C'est la figure du Graal et de l'alchimie. L'alchimie va sur 2160. Le premier traité d'alchimie, qu'on appelle le teinturier, date de au moins 360, et ça finit en 1800. Hein. Après 1800, il n'y a plus d'œuvre d'alchimie, ou bien des œuvres de fous, comme Siliani, ou bon. Donc, toutes les œuvres alchimiques vont être là. Sur ces 2160. Il y aura un combat entre Hermès, le liquide, et le grand archon, le grand archer, le feu, toute cette période, jusqu'en 630. Et de 630 jusqu'à 1800, il y aura un autre conflit entre l'eau et le feu, sous d'autres symboles alchimiques, mais aussi sous l'espèce et le genre, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est 630, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez, et c'est le seul moment de l'histoire, où vous avez au moins trois alchimistes, Étienne d'Alexandrie, un homme inconnu qu'on appelle l'anonyme, et un autre homme qu'on appelle le chrétien qu'on n'avait pas davantage, qui dans cette période-là, sur ce siècle, font décrire l'or, la matière essentielle, la matière sublime, pour un ensemble de genres et d'espèces, de matière et de forme. Ils vont pas rêver de créer l'or, comme ceux qui ont œuvré là, ils vont pas regretter la création de l'or comme ceux qui ont œuvré là, ils disent voilà ce qu'est la chose recherchée, voilà ce qu'est le Dieu suprême. Et c'est fait de genre et d'esprit. Et il y a trois genres et quatre espèces. respect, ces trois gens, ils ne diront pas tous les deux la même chose. Mais pour Étienne au cœur, c'est l'intime union de l'aspect des choses, de l'espèce, et du mode des choses, du genre. Alors, je vous le dis tout de suite, l'espèce, l'aspect donne l'espèce, l'espèce va donner la spécialisation, la spécialité. Il y aura un passage par encore des spécialités, et puis la spécialisation, bien sûr, puis la spéculation, on va se dire bien sûr. Alors que le genre donnera la généralité tout au long de ce même temps. Et puis pour finir, ça donnera le champ du créateur, en fait. Et puis, je me compte ces espèces, qu'est-ce qu'elles donneront? Elles donneront les espèces monétaires, la banque de notre époque. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils donneront? Ils donneront les gens sexuels, notre deuxième grand problème. Parce qu'en dehors du sexe et du fric, qu'est-ce qu'il y a? Mais au milieu de cette machine de 2160 ans, nous trouvons les quêtes du Graal. Or, les quêtes du Graal, évidemment, elles ne peuvent pas commencer avant le Christ, puisque c'est le sang du Christ qui est au passant. Ça commence seulement à l'an zéro. Et ça finit comme au dernier récit de la quête du Graal, c'est-à-dire en 1260. C'est-à-dire que la quête du Graal, c'est l'unité de l'Apocalypse, c'est 1260 ans, dans le cycle chimique des 2160. Et ici, avant 630, nous aurons quoi? Nous aurons la quête des rois, des fils de rois, de Gauvin. Et que fait Gauvin? Il va de l'Est vers l'Ouest. Et on dit, oui, c'est la course du soleil, c'est la course du soleil. Il est né quelque part en Germanie, mais d'abord, c'est un fils d'Aaron, certains disent que c'était même un roi d'Orient. Il va finir dans le château d'Arthur, dans le château du Graal, aux limites de Pékin, sinon en Iran, et au-delà de l'Irlande, à Valon, etc. Le fils de roi, il cherchera la coupe, le Graal. Et ça sera le sang du Christ, le sang réel, le sang royal, il va chercher. Et puis, il va le chercher avec la lance, ou avec l'épée, mais l'épée d'Estin, qui pénètre. Et puis, il est parti de la table ronde, et il arrive à la table ronde, toute son épopée est couverte par la table ronde. Et puis, il est porté par l'arche de Noé, l'arche de Moïse, l'arche de Salomon, par l'idée d'une protection suprême qui le soutient, puisqu'il est l'élu, il est le fils de roi. Il est l'enfant. L'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui vit dans sa famille, un être qui vit dans sa famille, parmi les siens, en paix, en sécurité, en élection. Tous les chevaliers, toutes les dames, tous les monstres même, les mauvais que va rencontrer Gauvin, seront des cousins, ou des neveux, ou des tantes. Ils ne quittent pas sa famille. Ils ne quittent pas sa famille. Mais le dernier chevalier de la quête, quand le roi est mort, quand l'ordre divin a disparu, ben ça sera Galade. Et Galade, lui, n'a pas de père. C'est un enfant trouvé. Comme l'adulte ou comme le scientifique qui parle d'une cause hypothétique et qui ne connaît pas l'origine des choses. Et il va aller, lui, de l'ouest vers l'est. Il va retourner au pays de Sarrasin pour trouver le Graal. Mais le Graal qu'il cherchera, ce sera la coupe, le contenant et non plus le contenu. Ça ne sera plus le sang réel, ça sera le vase qui est nommé Graal parce que ce qu'il contient crée à chacun. Il est le contenant sacré du désir et de la certitude humaine. C'est le contenant qui compte, c'est plus le contenu. Et il ne part pas de la table ronde.
Il ne fait pas partie de la table ronde, Galade. C'est un jacu. C'est-à-dire un ouvrier, un enfant trouvé. Et jacu, vous savez ce que c'est le nom de la table d'émeraude. C'est-à-dire qu'il part de la table d'émeraude. Comme enfant trouvé, comme Jacques. Et par ses révoltes de Jacques et par les révoltes de l'ouvrier, il tend à créer l'automate des dangers. Le contenant vide des dangers. Et tout ça est conclu en 1260 ans parce que l'histoire de Gauvin est du 11e, mais l'histoire de Galade est du 13e. Et l'histoire de Perceval au milieu, Perceval qui est tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, qui combat l'un, qui combat l'autre. C'est Perceval qui est le cœur de la quête. Et bien lui, son histoire sera racontée en 1200 entre l'histoire cistercienne et l'histoire de Chrétien de Troyes. Comme tout à l'heure, nous avions Collins, contenu d'Europe, nous avons ici la quête du Graal, contenu dans la Chine. Et puis, si on continue sur les millénaires, on trouvera le même jeu. Mais c'est un jeu de l'angle et du cercle, du droit qui aboutira à la croix, et puis du cercle, des fois, parce que là, c'est un droit.
Eh bien, je vous laisse un petit peu, peut-être.
Est-ce que les noix au moins sont précises? Est-ce qu'elles ont échappé à l'inversion? Eh bien non, apparemment elles n'échappent pas à l'inversion. L'histoire de l'humanité réduit au figures, au nombre et au vocable, se présente comme des lois toujours démenties. On a démenti d'une manière éclatante, d'une manière curieuse, mais éclatante. Je vous donner quelques exemples, je vous ai parlé du peuplement et du dépeuplement, vous parlez du même et de l'autre, vous parlez de la pendule et du pendule, et nous allons voir qu'il y a quand même une permanence de l'histoire de l'humanité là. Bon, au début, antérieurement à l'éloignement à l'approche, on peut dire que la première bien connue, et celle que Guénon, entre autres, et d'autres ont mis en lumière, entre les deux lettres majeures du sanskrit et du langage sémitique, l'un est un N, le nom, et l'autre est un U. Dans le mot va s'écrire sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Et Guénon dit que c'est curieusement, puisque l'une des écritures est extrême est, pas l'un et l'autre est au contraire plus occidental, c'est le vrai coucher du soleil. Évidemment, le soleil s'enfonce dans les flots, ou il s'y aussi au-dessus des flots, et nous verrons que ce N et ce U sont très significatifs parce que jusqu'à Sumer encore, il y a 4 000 ou 3 000 ans, le monde humain, le ciel vu par le monde humain, évidemment, n'avait pas du tout les mêmes approches que les nôtres. En fait, on se basait sur ce qu'on voyait, sur l'aspect des choses, et on disait le soleil se couche, il disparaît, et il apparaît. Et ça suffisait en réalité pour expliquer les religions. Et puis même, peu à peu, ça, on a expliqué les saisons. Voilà. Mais c'était non seulement une science, c'était une religion, puisque les livres de Sumer, le livre de la création notamment, racontent que les scorpions, les hommes scorpions, font lever le soleil, ils ouvrent les portes à l'eau, ils ouvrent au soleil, et la terre, et puis le soir, il ferme les portes sur le soleil qui décline. C'était donc une science très précise, qui bien sûr ensuite a été contredite quand on s'est aperçu s'est aperçu que le N et le U formaient un cercle. Et à ce moment-là, on a joué de ce qu'on a appelé le chaudron. Le chaudron, le panier, putain. Et le casque. Enfin, le casque, ou alors, qu'est-ce que ça, c'est. Je ne sais plus, je l'ai toujours fait, j'ai plusieurs, mais je crois que Michaud le dit, et même, je crois, Artaud. C'est la cloche et le chaudron, hein, qui sont deux des grands instruments sacrés de ces temps très reculés. Et comme ce monde de création, le monde du taureau, en somme, les cornes du taureau d'une part, et puis après, ce sera les cornes inversées. Ça va durer jusqu'au temps romain. Ah, c'est vers 30 avant Jésus-Christ, dans la mort, lors de la mort du taureau, qui a eu lieu il y a 2000 ans, et la mort du cratère, ça s'est appelé le lycnon. L-I-C-N-O-N. Et le lycnon, c'est à la fois un casque et le panier. Ça a été le panier qui contenait les fruits, les végétaux, pour le Dionysos torique, terrestre. Et quand le Dionysos a voulu devenir roi, comme dit Panos, son historien, quand il a tenu le roi, le lycnon a cessé de vouloir dire panier pour dire casque. Or, c'était une autre manière de dire le chaudron et la cloche. Bon, enfin, ça remonte très loin, on ne peut pas dire plus que celle-ci. Par contre, dès qu'on va parler d'éloignement et d'approche, on a toute l'histoire de la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la Bible? C'est l'histoire de 12, l'histoire des 12 fiches qui sont devenues 12 tribus, et qui vont d'abord conquérir l'Égypte, parce que leur terre promise, on l'a oublié, les Juifs aussi l'oublient bien sûr, mais leur terre promise c'était l'Égypte. Quand Dieu promet à Abraham l'empire du monde, il lui promet l'empire existant à l'époque, c'est-à-dire l'Égypte. Il lui dit, je vais te faire le roi, le maître, le chef de l'Église, ta race sera chef de l'Égypte. Et nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure sur cette histoire, parce que c'est très important. Mais enfin, Joseph, c'est bien ce qu'il fait, il fait venir ses frères, son père et toutes les tribus, et ils vont dominer, nous dit la Bible, pendant 4 siècles sur l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la conquête des Hyksos, au roi Berger, au roi Jacob, etc. Et puis les Égyptiens vont se débarrasser des Juifs, c'est-à-dire qu'ils vont en faire des ouvriers, ils vont leur faire faire des travaux de plus en plus difficiles, ils vont leur donner de moins en moins de sous, ce qui est très important, et en fin de compte, Moïse ira bon moment. C'est comme ça. Et alors, ça aurait été dit, ça aurait été annoncé. Ça aurait été annoncé, chose curieuse, extraordinaire. Ça aurait été annoncé par Jacob lui-même avant sa mort, qui dira à Joseph, parce que Jacob lui-même est venu en Égypte, il sera enterré magnifiquement d'ailleurs. Mais avant sa mort, il dit à Joseph, Jéhovah m'est apparu, Yahvé m'est apparu, et il m'a dit, vous ne resterez pas toujours en Égypte. Alors, il faudrait mieux prévenir tes frères. Et quand Joseph, avant de mourir, il va prévenir ses frères, il va trouver le mot sublime quand même, 17 siècles avant le Christ, je vous pardonne de m'avoir vendu, etc. Mais Yahvé a dit à Jacob, nous ne resterons pas toujours en Égypte. Donc, là, c'est toujours la même chose, ça faudrait parler une heure là-dessus. Dieu fait des promesses spirifiques. C'est des promesses spirifiques. Il crée l'homme et la femme en un seul être, la première formulation. Le premier Adam, l'annonce spirituelle, et il lui donne le jardin. Il lui dit, voilà, tu es chez toi. Vous deux, chez vous, ils sont deux en un. Et c'est très bien, il n'y a pas de progrès.
Et un Dieu page, puis ce Dieu magnifique, ce Dieu formateur, il devient peu à peu créateur, et puis il prend de la glaise, il prend des poux, il prend son propre sperme, il fabrique un homme à l'oreille, enfin il le crée, il le forme pas, il le crée. Et puis l'homme ben, va dire, je suis tout seul, il faut une femme, on va reprendre la croûte d'Adam pour faire elle. Tout ça, ça devient très matériel. C'est plus du tout la forme idéale. Et qu'est-ce que dit Dieu à Adam à ce moment-là? Il leur dit, il y a dans cette arme, dans ce jardin, un arbre qu'il ne faut pas toucher. Parce que si vous le touchez, moi je vais être obligé de vous chasser. Et quand il dit ça, c'est très bien qu'ils vont y toucher.
En fait, c'est un peu extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est la même chose qui s'est produit.
Dieu a dit à Abraham, tu te coupes un petit coup de peau, et puis tu as mon alliance pour des siècles, et tu vas avoir le royaume. Et puis en effet, il a le royaume. Et Joseph dit, le Dieu de mon père l'avait dit, nous serons les maîtres en Égypte. Alors, sur la Dieu, c'est rien de nouveau, il est jamais pas tout le temps.
Et ça se renouvelle une troisième fois.
Ça se renouvelle une troisième fois. Quand Jésus dit à ceux d'apôtres au début, plutôt dit à peu près tout le long de sa vie, il dit, je vous ai apporté la vie, je vous ai apporté la nourriture, je vous ai donné mon corps, je serai toujours avec vous. Et puis le soir de la Passion, il dit, un jour je m'en irai. Alors préparez-vous au pire. C'est l'inversion. C'est l'inversion, mais bref. Alors, les tribus, donc, ils vont à travers, ils vont vers l'Égypte, et puis après, ils quittent l'Égypte, ils vont aller vers l'Est, vers le Jourdain, d'abord l'Ouest de l'Égypte, après l'Est du Jourdain. Et puis, quel est le problème? C'est curieux, personne n'a dit ça au moins. Je vous jure que c'est vrai, hein.